Le peuple de la mer. Troisième partie, chapitre 5. Bernard relâcha sa surveillance autour de Petit Pierre quand il lui vint sérieusement de l'inquiétude au sujet de son fils Eugène, dont il était sans nouvelles. Il n'en laissa toutefois rien paraître, dans la crainte d'affoler sa bonne femme, qu'un sentiment analogue empêchait de se plaindre comme elle l'aurait voulu. Le soir, pourtant, après le coucher de Petit Pierre, lorsqu'elle se retrouvait seule avec celui qu'elle nomme son patron, d'une appellation campagnarde qui contient ensemble la soumission de la femme et la protection de l'homme, elle osait parfois le questionner d'un air indifférent. Bernard faisait du filet à petites secousses régulières. Elle tricotait. Leurs mains s'agitaient machinalement, tirant le fil, croisant l'aiguille. Mais leurs yeux étaient en songe, sous les paupières. Ils sentaient confusément une même pensée remplir la chambre autour d'eux. Ils évitaient de se regarder, et la mère Bernard cherchait un détour pour engager la conversation. Elle se lève, décroche l'almanach qui jaunit au mur, et l'approche de la bougie en assurant ses lunettes. « Voyons, nous voilà au 20. Non, au 21, la Sainte-Jeanne. » Elle attend vainement un mot de Bernard et reprend. « Oui, c'est le 21. Ça fera 4 mois le 25. » Bernard ne bouge pas et poursuit son ouvrage. Alors elle se redresse et lui dit doucement. « T'entends, mon bonhomme, il y a 4 mois qu'Eugène a point écrit. » Le brigadier s'arrête et feint l'étonnement. « Bah, t'es sûr ?» Simplement, elle va vers l'armoire et tire des lettres dont l'écriture apparaît torte et maladroite sur un papier quadrillé taché de pâté, tandis qu'elle y cherche une date. « Il y a de la buée sur mes lunettes, » dit-elle. Elle les essuie au coin de son tablier en se détournant pour que Bernard ne voie pas ses yeux humides. Et quand elle les a rajustés dans l'encoche de son nez, elle reprend. « Oui, 25 avril la dernière. Il y aura 4 mois dans 4 jours. » Le brigadier hoche la tête en ricanant. « C'est ben rien que ça. Mon défunt père est resté 2 ans perdu. Puis un jour, qu'on l'attendait point, il est revenu, pas plus failli que s'il avait quitté la maison la veille. » La bonne femme l'écoute, la lettre à la main. Puis, sans rien dire, elle la range et soupire en se rasseyant. « Tout de même, on n'est point tranquille. »« Te fais donc pas de mauvais sang, » plaisante Bernard. « Point de nouvelles, bonne nouvelle. On le sait, va, quand il y a des accidents. » Mais les jours suivants, il monte seul au-devant de Louchon le facteur à l'heure où celui-ci revient de Noirmoutier. Il le rejoint en deçà du village, sur la route où Louchon marche à grands pas, en piquant le sol de son bâton ferré avec son chien sur les talons. « En promenade, père Bernard ?»« En promenade, mon gars. Quoi de neuf en ville ?»« Rien. La fille a mal chaussé et qu'est enceinte. On dit que c'est du syndic. »« Ah !» Ils vont un moment silencieux, côte à côte. À une croisée de chemin, Bernard dit « Je vais descendre à la Blanche. Y a rien pour moi ?»« Dame, non, y a rien. C'est rapport au fils. »« Oh, ça presse point. Mais vous savez, un mot fait toujours plaisir. »« Qu'un... le gars, c'est le gars, quoi. »« Salut, Bernard. »« Salut, Louchon. » Chaque fois, c'est la même réponse. Le brigadier s'efforce d'en prendre gaillardement son parti, bien qu'il sente, au fond, croître son inquiétude. Et quand la mère Bernard lui demande le soir « As-tu vu le facteur ?» il ment avec fanfaronnade pour dissimuler et se donner du cœur. « Non, il connaît le chemin, pas vrai ? Il viendra ben quand il y aura quelque chose. » Cependant, il éprouvait le besoin d'échapper au bourdonnement des pensées qui tournaient en rond sous son crâne. N'ayant plus rien à faire à la maison ni au jardin, il bricola, construisit des moulins, des gendarmes qui battaient des bras au vent, ou de petits bateaux se poursuivant autour d'un axe. Intéressé par ces inutilités, il les parachevait avec conscience et les distribuait autour de lui. En même temps, il s'adonna furieusement à la pêche, et on le vit des heures entières somnoler au bord de la jetée, les jambes pendantes, encadré par Clémotte et Ourtin, qui fumaient dans un silence contemplatif. Leurs ombres s'allongeaient sur l'eau devant eux. Fasciné par la ligne, Bernard ne songeait pas à rentrer. Déjà, les sardiniers accouraient, les voiles hautes, du côté où le pilier met une bosse sur l'horizon, et les femmes descendaient du village en jabotant leur patois clair. Petit Pierre avait repris sa vie libre, en cachette. Il endormait sa mère avec des mensonges et s'efforçait d'éviter le brigadier sur le port. La complicité des vieux, qui blâmaient Bernard, lui avait ménagé quelques sorties à la mer. Il suivait Perchet par goût et par émulation, car s'il aimait naviguer, il ne lui plaisait pas moins de défier Olichon, qui était mousse. Le soir, quand les barques reposaient à la chaîne, côte à côte dans le port, et que la marmaille grouillait dans les canaux empestés par la rogue, Perchet réunissait les deux rivaux. « On va voir celui qu'a des biceps, les enfants !» Olichon était plus grand, plus maigre que Petit Pierre, avec des bras qui n'en finissaient plus, et que les manches de sa vareuse couvraient à peine jusqu'au poignet. Les pieds en dedans, il adhérait au pont de sa chaloupe, sa petite figure chafouine, toute tendue d'énergie. « Le premier rendu en tête du mât !» annonçait Perchet. « 1, 2, 3 !» D'un bond, l'un et l'autre sautaient sur les drisses et grimpaient vite, tirant des bras, poussant des reins et des genoux. Ils ne se distançaient point d'abord. Olichon montait par grandes secousses à la faveur de ses longs membres. Petit Pierre progressait par soubresauts rapides, comme s'il rampait. Des sloops voisins, les gars regardaient. Perchet présidait gravement, la tignasse en arrière, le poitrail développé. Au capelage, Olichon s'engageait un instant dans les poulies. Petit Pierre s'enlevait par les haubans, embrassait la fusée du mât. En une seconde, il gagnait le sommet et criait sa victoire. D'en bas, Perchet répondait d'enthousiasme. Olichon s'affalait sur le pont, rouge de dépit.
« Viens-y donc à la nage » criait-il. « Viens-y donc ! Tu verras si je ne t'ai pas !»
Perchet jubilait, faisait chorus, brandissait sa main paralysée et commandait.
« À la nage ! D'ici là, jetez !»
En un tour de main, les chemises s'abattaient. Bien que tout haletant, Tipierre arrivait à plonger en même temps qu'Olichon. Sous le clair, on voyait verdir leurs corps nus et s'enfler leurs muscles, des omoplates aux jarrets. Ils s'efforçaient à grandes brasses à travers des barques qui les masquaient par intervalles et d'où les hommes les excitaient au passage.
« Hardi, là ! Souk, petit gars !»
Mais Petit Pierre battait l'eau nerveusement et s'épuisait, tandis que les cheveux noirs d'Olichon s'éloignaient régulièrement. Déjà, son remous ne l'atteignait plus. C'était la défaite. Alors, tournant la tête et nageant de biais, comme s'il ne voyait pas sa route, Petit Pierre se jetait résolument contre un corps mort. Quelqu'un criait « Attention !» Petit Pierre poussait une plainte et s'accrochait à un canot. Perchet le rejoignait à la godille, l'embarquait. Petit Pierre avait une grosse mâchure au coude, mais ne pleurait pas et regardait seulement Olichon qui abordait la jetée. Perchet se grattait la tête d'un air bonhomme, tapotait le bras du gamin et jetait vers le triomphateur.
« Ça compte pas ! Bernard, ça fait mal !»
On entendait Olichon ricaner.
« Oh là là ! La poule mouillée !»
Et il replongeait, par fanfaronnade, pour regagner son bord à la nage, tandis que Perchet emmenait son mousse boire la goutte chez Zacharie.
Les premières fois, Petit Pierre fit la grimace sur le taco que les pêcheurs avalent d'une lampée sans goûter, parce que la satisfaction n'est pas pour eux dans la saveur de l'alcool, mais dans l'ivresse qu'ils déterminent. Les hommes riaient en se moquant. Doublenaire affirmait « C'est ça qui fait un homme, petit gars !» Et Julien Perchet, un garçon de conduite pourtant, buvait gaillardement ses trois gouttes pour lui donner l'exemple. Petit Pierre apprit vite à siffler son verre, comme les autres, non qu'il trouva bon l'âpre de vie, mais parce que ce geste le haussait dans son estime au niveau des héros, comme Perchet et Tonnerre, le baigneur. Or, ce fut en leur compagnie qu'entrant un soir au XXe siècle, Bernard surprit son fils, accoudé à la grande table cirée, devant un verre. Petit Pierre n'eut pas le temps de s'effacer qu'une gifle lui cingla la figure. Perchet s'interposa, mais tout gonflé de colère, Bernard riposta.
« Si c'est pas honteux de faire boire un gamin comme ça !»
Et il empoigna son gars, qui s'accrochait à la table, désespérément. Des verres chavirèrent et se brisèrent sur le carreau. Tonnerre, les yeux sinistrement rapprochés par l'ivresse, grognait d'une voix râpeuse.
« Y'a que la goutte, y'a que la goutte pour donner des forces. Suis-t-il un crevé, moi ? Plus d'homme que 10 femmes n'en ferait, que j'ai sauvé. T'entends, hein ? Il boira la goutte !»
Il frappait alternativement la table et sa poitrine à grands coups de poing. Mais sans s'inquiéter, Bernard chassa son fils devant lui, tandis que la mère Zacharie, accourue au tumulte, criait d'un ton aigre.
« Enfin, il a ben le droit. C'est son gars après tout. Et vous autres, tas de saligots, vous cassez ma vaisselle. »
La remontrance se fit à la maison, en présence de la mère, qui lâcha d'émotion le chou qu'elle nettoyait pour la soupe, en entendant son patron traiter le gars d'ivrogne et de débauché.
« Allons, concilia-t-elle, il ne le fera plus. Une fois n'est pas coutume. »
« Ah, pas d'excuses !» coupa sèchement Bernard. « Pour un gaillard qui traîne du matin au soir, en compagnie de Tonnerre et du grand Perchet, ça va finir, et pas plus tard que demain. Je te le mets en apprentissage !»
Pour la première fois, Petit Pierre releva son front têtu et affirma résolument
« Je m'en irai avec Eugène, quand il sera revenu. »«
Laisse donc Eugène tranquille.
T'iras en apprentissage !» « Je m'en irai avec Eugène, sur son bateau. »«
Eugène, Eugène, tu sais seulement pas quand tu le verras. »«
Tu vas nous porter malheur, mon Bernard, » fit doucement la bonne femme.
« Aussi, il me fait sortir de mes gonds, ce gosse-là. »
L'affaire en resta là. Ils demeurèrent silencieux toute la soirée, en évitant leurs regards. Mais les jours suivants, Bernard tint parole et engagea son gars chez Zacharie, qui a boutique de menuiserie derrière sa buvette. La mère demanda grâce pour une semaine encore. Le brigadier protesta énergiquement contre la mollesse des femmes et céda avec de la joie dans le cœur.
« On n'en a-t-il pas assez qui sont loin ?» disait la vieille.
« Gardons celui-là jusqu'au mois prochain. »
L'automne ramenait les soirs humides, plus avancés de jour en jour. Déshabitué des chutes rayonnantes sur la mer calme des étés, le soleil s'enlisait de bonne heure dans la brume lourde qui saignait, comme un bandeau, l'horizon des océans. Les couchants n'étaient plus dorés, mais écarlates. La nue devenait plus sombre, la mer plus dure, et le ciel encombré de nuages qui retenaient longtemps le mirage du crépuscule. Les merlans, précurseurs du froid, apparaissaient sur la côte. Le gibier se rassemblait pour la migration. Il n'y avait plus d'hirondelles. Devant la maison des Bernard, les touffes d'hortensias s'étaient décolorées du rose au gris, puis un coup de vent avait emporté les pétales. Les tamaris résistaient et portaient encore des fleurs. Vielle vendangeait ses treilles et les femmes préparaient pour leurs hommes des vêtements cirés et salaient des maquereaux en prévision de l'hiver. aucune dépêche n'avait encore signalé le Bourbaki sur lequel naviguait Eugène, et l'inquiétude fêlait, à petits coups, l'espoir au cœur des Bernards. Le brigadier enquêtait près des vieux coureurs de mer, mais chacun ne savait qu'exalter le temps de sa jeunesse au mépris de celui dont il n'est déjà plus.
« Ton gars serait sur un navire en bois, oui, » proclamait Hourtin. « Je répondrais de lui, mais sur de la ferraille, non. Fallait voir notre Sainte-Anne en cœur de chêne, si ça patouillait proprement. Le fer, c'est le fer, quoi. Ça navigue point, ça coule. Ah, la marine en bois !»
Et un beau jour, Louchon poussa la porte des Bernards pendant qu'ils étaient à table.
« Bonjour à vous, la compagnie !»
La bonne femme mit la main sur sa forte poitrine pour retenir son cœur qui sautait. Bernard affermit son maintien et tendit la main pour recevoir la lettre.
« Dame, il n'y en a point encore, mais on vous demande à la marine. C'est M. Bourdin, le préposé. Des nouvelles, pour le sûr. »
« C'est bon, on va y aller tantôt, » dit Bernard.
Mais sitôt Louchon parti, il écarta l'assiette, saisit son béret et dit
« J'y vais !»
Sa femme l'embrassa derrière la porte. Ils avaient peur, tous les deux. Petit Pierre criait
« C'est-y Eugène qui vient ? C'est-y Eugène !»
Bernard s'en va très vite, par les raccourcis, les yeux sur Noirmoutier, dont la verdure et les toits bombent à l'horizon. Autour de lui, on bêche déjà les champs où du goémon, distribué par petits tas, se corrompt en puant âcrement. Des mouches traversent le chemin en ronflant, et le vent de mer souffle au dos des herbes qui roulent comme une onde tout le long des banquettes. Bernard marche à grands pas résolus, comme on va vers un danger inévitable, pour l'éprouver au plus tôt. Pourquoi l'appeler à la marine, en effet ? Eugène aurait écrit simplement, si tout allait bien. Il renifle dans le vent les senteurs goémonées et se souvient qu'on fumait également la terre il y a 6 ans, lorsqu'il se rendait à la ville, comme aujourd'hui, pour y apprendre la mort de son pauvre Dominique. Misère ! Ils n'ont tout de même pas de chance. Est-ce que tous les gars vont s'en aller comme ça, les uns après les autres ? Sans s'en apercevoir, Bernard arrive si vite au bureau qu'il reste un moment interdit devant la porte. Il l'ouvre enfin, mais comme elle grince sur ses gonds, tout son courage s'effondre avec un grand fracas dans sa poitrine. Monsieur Bourdin, qui lit l'écho de Paimbœuf en fumant sa pipe, lève la tête.
« Ah, Bernard, mon ami, mon brave ami, je vous attendais. »
Il plie le journal qu'il met à gauche sur la table et dépose sa pipe à droite dans une soucoupe.
« Eh bien, comment ça va ?
Je vous ai fait venir pour des nouvelles.
Oui, oui, au sujet de votre fils, Ernest, n'est-ce pas, Ernest ?
Pardon, Eugène, monsieur.
Oui, oui, Eugène. Ce pauvre garçon. Votre cadet ?
Non pas. L'aîné, maintenant, monsieur.
Justement, eh bien, oui, oui, voilà. Une lettre des armateurs.
Monsieur Bourdin ajuste son lorgnon, déplace successivement 3 galets et découvre la lettre. Bernard a pâli au bord de sa chaise, les mains crispées sur son béret. Un rayon de soleil éclaire sur le mur des amiraux à belle barbe et des présidents satisfaits barrés du grand cordon.
« Voilà, j'aurais pu vous envoyer ça. J'ai préféré vous voir. Vous comprenez, une lettre, c'est brutal. Moi, je pouvais pallier, adoucir.
Oh, il n'y a rien de perdu, vous savez. Voilà.
Monsieur, nous avons le triste devoir de vous faire connaître que notre navire, le Bourbaki...
Ah, un nom glorieux, hein ?
Le Bourbaki, parti d'Auckland le 12 avril, a été signalé le 25 du même mois, pour la dernière fois,
etc., etc. Oui, enfin, on est sans nouvelles.
Vous savez, il n'y a rien de perdu. On est inquiet, on suppose. Vous comprenez, voilà 6 mois, bientôt. Seulement, on n'a trouvé aucune épave. Rien.
M. Bourdin replace méthodiquement la lettre sous le 3e galet. On entend un gamin jouer dans la rue avec un cercle de fer. M. Bourdin regarde Bernard et voit ses yeux pleins d'eau.
« Allons, allons, mon ami, du courage.
Oui, oui, c'est dur, très dur. Mais enfin, pas d'épave. Voilà de l'espoir, hein ?»«
Oui, oui, la mer. Vous savez bien,
mais quoi ? On est des hommes. » Il secoue bonassement les mains de Bernard, qui se lève avec effort et dit tristement
« C'est le 3e gars que je perds, monsieur. Fichtre !»
Monsieur Bourdin ne trouve pas autre chose, car il est ému à son tour. Bernard ne songe plus qu'à s'en aller ailleurs, parce qu'ici, le cœur lui fait trop mal. Monsieur Bourdin propose de l'accompagner un bout, mais il l'arrête au seuil à cause du soleil et qu'il n'a pas de chapeau. Bernard s'éloigne par la petite rue en longeant les maisons, comme s'il avait honte de se montrer. Le gamin au cerceau le frôle en courant, débraillé, soufflant de vie. Bernard s'essuie les yeux avec le dos de la main et marche plus fort. Les gens qui le voient passer, de ce train fou, le béret de travers, la face bouleversée, disent avec étonnement
« Oh, voilà Bernard qui s'a dérangé !»
Mais quand il rentre chez lui, sa bonne femme comprend et se met à trembler sur sa chaise. Puis, son visage se crispe comme celui d'un petit enfant, et elle pleure à chaudes larmes en répétant
« Ça y est, ça y est !»
La douleur de sa femme distrait le brigadier de la sienne. Ranimé, il encourage la mère, lui dit qu'on est seulement sans nouvelles, qu'on n'a pas trouvé d'épave, qu'on ne sait rien, qu'il faut espérer, et un tas de choses auxquelles il ne croit pas lui-même, mais qui lui viennent aux lèvres naturellement, par pitié. Elle pleure, se lamente, grossièrement remuée, mais profondément, car elle souffre dans son instinct. Elle ressasse le nom de son petit gars, Eugène, Eugène, l'enfant de ses entrailles, perdu à l'autre bout du monde, et dont elle ne verra même pas le cadavre. Dans un coin de la chambre, petit Pierre, qui triait des pommes de terre, a relevé la tête vers ses parents. Ils ne font point attention à lui maintenant. Ils ont leur douleur. Petit Pierre n'a pas entendu parler de mort, mais il sent bien qu'il y a une catastrophe parce qu'ils appellent le grand frère et qu'il pleure. Les larmes surtout le touchent, sans en savoir la cause, car c'est de l'eau qui coule quand on a mal. Sa mère a mal, très mal sans doute, puisqu'elle se plaint tout haut, comme les enfants, ce qui n'est pas l'habitude des grandes personnes. Petit Pierre approche derrière le père. Il voudrait qu'on le remarquât, mais il n'ose parler et ne sait que dire. Le brigadier a tiré son mouchoir à carreaux et se mouche bruyamment. Alors, Petit Pierre va s'abattre sur les genoux de sa mère dans le tablier humide.
« Toi, toi, tu resteras, toi !» supplie la bonne femme.
Elle écrase le front de l'enfant sur sa poitrine et le tient à belles mains de toute sa force. Son tricot a roulé par terre où les aiguilles brillent. Petit Pierre a le cœur si gros qu'il éclate en larmes.
« Ah, le bon petit gars !» dit le brigadier.
La mère le hisse sur ses genoux, le berce un peu par souvenir et lui parle à l'oreille.
« Mon petit, mon tout petit, tu quitteras point ta mère, dis. C'est Eugène, maintenant, que le bon Dieu nous a pris. Il t'est si fort, il t'est si beau pourtant, mon petit, il n'y a plus que toi, toi et Florent, plus que tes gars à moi, plus que deux. »
Petit Pierre sanglote. Et tout hoquetant, la voix mouillée, il promet à sa mère en la prenant par le cou,
« J'irai chez Zacharie, va. Je veux rester. Je veux être menuisier. »
Bernard sourit de joie et empoigne son fils pour l'embrasser. Des femmes passent silencieusement sur la route et plongent un regard chez les Bernard. De porte en porte, la nouvelle lancée par Louchon circule.
« C'est leur grand gars qui a naufragé. »«
Oh, les pauvres gens! Est-il mort ?
Ah, il se paraît !»
Les femmes sont tristes et pensent aux hommes partis en mer. Et quand, vers le soir, la Bernard monte à l'église, toutes viennent au pas des portes contempler la face d'une mère qui a perdu son gars. Et quelques-unes, celles qui ont déjà des morts, la suivent discrètement pour prier Dieu près d'elle.